Bonjour, c'est Jean-Philippe Bergeron. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Pour ce podcast, j'aimerais vous parler d'une tendance dans la politique qu'on a souvent justement tendance à oublier. Vous savez peut-être que je suis un fan de la série de livres Harry Potter. Une des choses que j'aime dans cette série-là, c'est que même si elle est adressée aux jeunes, surtout dans les livres plus anciens, il y a une critique du gouvernement et des institutions très présentes, très viscérales. D'ailleurs, J.K. Rowling, l'auteur, a déjà dit qu'une des grandes leçons de la série de livres, c'est ne faites pas confiance à vos leaders. Ne faites pas confiance, pour moi ça veut dire ne faites pas confiance à vos gouvernements. En tout cas, dans la série, il y a un personnage du nom de Horace Slughorn, qui est, selon moi, le vrai pouvoir. Ce personnage-là s'inspire des vrais gens qui ont le vrai pouvoir dans les gouvernements actuels et anciens. Cette personne-là n'a jamais vraiment atteint aucun poste de pouvoir. C'est qu'il connaît des gens. Et c'est là sa grande habileté, sa grande force, c'est qu'il connaît des gens partout. Ça lui permet donc d'avoir plus ou moins tout ce qu'il veut. J'aimais bien l'image que Harry se faisait la première fois qu'il avait entendu parler de lui, d'une araignée qui tissait sa toile un peu partout pour ramener des gens et des récompenses. Donc, de la même façon, les gens, contrairement à ce que les médias et le gouvernement en général voudraient vous faire croire, les gens qui ont le plus d'influence dans un gouvernement, ce ne sont pas les politiciens. À l'exception peut-être du premier ministre, mais il y a énormément de gens, des patrons de fonctionnaires, des conseillers nommés par le premier ministre qui ont énormément plus d'influence au sein d'un gouvernement que n'importe quel politicien, n'importe quel ministre. À Ottawa, par exemple, dans le gouvernement fédéral canadien, il y a le greffier du conseil privé. Cette personne-là, c'est le patron des fonctionnaires, le secrétaire du conseil des ministres, c'est le conseiller politique du premier ministre, qui est d'ailleurs nommé par le premier ministre. Tout ce qui est, toutes les lois, tout ce qui se rend au conseil des ministres passe par cette personne-là. Pourtant, je suis sûr que même si vous connaissez relativement bien en politique canadienne, vous n'avez jamais entendu parler du greffier du conseil privé. Pour ceux qui m'écoutent de l'Europe, je suis sûr que si vous faites une recherche, un temps soit peu exhaustive, vous pouvez trouver un poste similaire dans votre palier gouvernemental respectif. Donc, toute cette idée que la démocratie va être sauvée par un politicien, ou même du côté libertarien, ce qu'un politicien va être élu et va réformer le gouvernement, c'est du wishful thinking. J'aimerais bien que ça arrive, honnêtement, mais je suis vraiment, vraiment pas optimiste. Donc, en ce moment, on se croirait à nouveau en 2007-2008. Il y a une folie sur Internet par rapport à Ron Paul. Le sauveur libertarien annoncé. Si je pouvais parler aux gens qui appuient Ron Paul, je dirais, non, mais vous apprenez pas de vos erreurs. Excusez, mais c'est vrai. En 2007-2008, la campagne de Ron Paul avait atteint un sommet inégalé. Il a atteint une popularité inégalée et les idées autrichiennes d'économie, les idées libertariennes ont jamais eu autant d'exposure. Et qu'est-ce que ça a donné? Un échec lamentable. Ron Paul a échoué lamentablement. Il n'a pas été nominé. Il n'a pas gagné. Il n'était même pas proche de gagner l'investiture. Peu importe ce que certains forums ou certains sondages Internet disaient. Donc, après cet échec terrible, la réaction rationnelle, ce serait de dire, OK, la libération du peuple passera pas par la politique. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est une répétition des erreurs des pères fondateurs. Dans le sens que la Constitution américaine, le gouvernement original américain, c'était un essai. L'essai le plus vaste, le plus méticuleux pour limiter le pouvoir du gouvernement. Et qu'est-ce que cet essai-là a donné 200 ans plus tard, 300 ans plus tard? Ça a donné le gouvernement le plus massif, le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité. Donc, cet essai-là de créer le gouvernement le plus petit possible, le plus limité possible, a été un échec. Donc, d'après moi, Ron Paul, peu importe à quel point cette personne-là est intelligente, et j'ai aucun doute que Ron Paul est très intelligent, très, très instruit, bon, c'est un peu honteux que ce qu'il soit un créationniste alors qu'il est un médecin, donc il doit avoir à quelque part étudié un peu de biologie. Donc c'est un peu honteux, selon moi, que cette personne-là soit un créationniste. Ce serait un peu comme si on avait un géologiste qui maintient que la Terre est plate. C'est la même. C'est dans le même créneau pour moi, la disparité. Ça enlève pas. J'imagine que ça enlève un peu, mais pas trop d'intelligence. Je suis certain que Ron Paul est quelqu'un de brillant. Je suis certain que j'aurais un grand plaisir à parler avec lui au restaurant, si jamais c'était pour arriver un jour. Mais c'est pas le sauveur annoncé. C'est pas par là, selon moi, que on doit se diriger pour atteindre la liberté. Les gens qui m'écoutent de la France, Je vais avouer que non, c'est vrai que Sarkozy était pas un, a jamais été le sauveur libertarien, mais les gens qui l'ont élu, je crois, en général, voulaient moins de gouvernement. Et corrigez-moi si je me trompe, mais depuis ce temps-là, on a énormément plus de gouvernement en France. Et c'est très, très clair que Sarkozy a jamais eu l'intention de maintenir une politique libérale. Si je peux m'en venir vers des exemples un peu plus concrets de tentatives de réduire la taille de l'État, on peut commencer par un exemple américain. Ensuite, je pourrais vous parler d'un exemple en France, il y a quelques années. Aux États-Unis, il y a eu toute l'idée de toute la merde qui est arrivée au Wisconsin. Tout ce que cette personne-là voulait faire, tout ce que la personne en charge voulait faire, c'est-à-dire aux employés, OK. On va seulement négocier vos salaires actuels. Parce que les salaires actuels sont payés par les gens qui sont vivants en ce moment. Si on est pour négocier une hausse de vos fonds de retraite ou vos avantages futurs, c'est taxer des gens qui sont même pas encore nés. Donc, c'est injuste et donc, c'est pour ça qu'on va seulement négocier sur votre salaire actuel. C'est vraiment très mineur comme protestation, comme demande libertarienne. On a vu pas mal plus radical que ça. Si je fais un tour sur un site libéral, il y a des propositions beaucoup plus radicales que ça. Je crois que vous serez d'accord. Et donc, ça a causé des marches, des grèves. On avait des représentants démocrates, des candidats démocrates qui refusaient de se présenter aux élections pour que tout soit bloqué le plus possible. Les manifestations, les menaces, la propagande. Ça a été énorme. Vous imaginez qu'est-ce qui se passerait si Ron Paul était élu? Il sera pas élu, mais supposons qu'il soit élu, qu'il essayait de réformer le gouvernement pour être un gouvernement monarchiste. Vous imaginez qu'est-ce qui... le nombre de gens qui seraient prêts à descendre dans les rues pour empêcher que ça arrive? Réalistiquement parlant, ça peut pas arriver. C'est pas par là qu'il faut aller. L'exemple français qui me vient en tête, ce serait il y a quelques années le CPE, le contrat première embauche, qui disait en gros que les jeunes, les premières embauches pour les personnes plus jeunes, ces gens-là pourraient se faire renvoyer ou mis à pied et n'auraient pas immédiatement, bénéficieraient pas immédiatement de toutes les protections salariales que le gouvernement a mis en place. Dans le positif, cette loi-là aurait fait exploser l'emploi chez les plus jeunes. Ça, il n'y a aucun... On ne peut pas nier ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Juste ça, juste cette loi-là. Oh, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, les manifestations qui ont eu lieu. Puis c'était un... Encore une fois, c'est quelque chose de très mineur. Et on a eu une colère populaire incroyable. Donc, selon moi, La politique n'est pas la solution. Donc, toute cette idée-là, ici au Québec, on n'a pas encore un parti politique, quoique le Parti conservateur canadien avait certaines idées de vouloir moins d'État, mais la taille du gouvernement a augmenté, la dette a augmenté depuis que les conservateurs sont au pouvoir. Donc, c'est complètement faux. Donc, c'est vraiment une honte d'apprendre et c'est peut-être une façon de voir qu'est-ce qui pourrait arriver à Ron Paul s'il était élu. Stephen Harper, le premier ministre canadien actuel, connaît les théories autrichiennes de Hayek. Il en a parlé avec un libertarien proéminent au Québec qui s'appelle Martin Mas. C'est l'éditeur en chef du magazine Le Québécois libre. Ils ont parlé ensemble des théories autrichiennes de Hayek. Et c'est la même personne qui est premier ministre actuellement. Et je vous jure que si je l'avais pas lu, j'aurais jamais deviné que cette personne-là connaissait ces théories économiques-là. C'est vraiment un changement énorme entre le Stephen Harper que Martin Mas a connu il y a des années et le Stephen Harper qui est devenu un étatiste comme les autres actuellement. Donc, quand je vois les lobbies comme l'Institut économique de Montréal ou le réseau Liberté Québec vouloir faire des pressions pour des politiciens plus libéraux. Je sympathise avec eux, vraiment. Mais je peux pas m'empêcher de parler, de penser que c'est voué à l'échec, qu'ils perdent leur temps, qu'ils pourraient faire beaucoup mieux en se concentrant sur les vraies sources de l'étatisme. Quelles sont ces vraies sources de l'étatisme? Ça, je pense que je vais garder ça pour le prochain podcast. J'espère que vous avez aimé m'écouter et je vous reparle très bientôt. À la prochaine.